De gros nuages noirs couraient, comme affairés, poursuivis par leurs ombres sur le canal clair. L'aubergiste Ebutiou bâilla. Encore une piètre journée. Il se tenait droit sur sa porte, le visage tout jaune, d'apparence malade. Sa jambe de bois battait une mesure. Un bouchon desséché s'agitait au-dessus de sa tête, pendu à une tringle lamentable. Des ceps de vigne grimpaient en espalier. À l'une des fenêtres, dans un entrebâillement de rideaux pauvres, sa femme regardait sur la route. Elle était forte et fraîche et pinçait légèrement la peau de ses mains trop rouges pour se faire des blancs. Près d'elle, sur une assiette blanche, en une bouillie noire, des mouches s'asphyxiaient. De temps en temps, du bout du doigt, elle en prenait une pour la sauver. La mouche retombait. « Têtu, ça t'amuse de périr ?» Et Boudiou rentra. « C'est fini pour aujourd'hui, Justine. Personne ne viendra à cette heure. » Cependant, ils espéraient encore. Et Boutiou tambourinait sur la table. Soudain, des grelots sonnèrent, un fouet claqua. « Une voiture !» dit Justine. Et Boutiou resta cloué. Il n'osait se réjouir. « Vous verrez qu'elle passera tout droit. » Elle s'arrêta, légère sur ses deux roues, peintes en vert. Un monsieur très bien mis descendit. Il avait une belle barbe noire, un teint pâle et assez de ventre, comme le type du blanc dans les géographies élémentaires. Il voulait casser une croûte seulement pour continuer une grande excursion qu'il faisait dans le pays. Justine et Boutiou se multipliaient, en quête de torchons, effarés, avec trop de pas et de gestes, comme s'ils avaient perdu l'habitude de servir. Et Boutiou avançait un tabouret de paille. Il regrettait, on réparait les chaises. Justine cassait une assiette, invitait monsieur à rester, à coucher. Il verrait demain la fête du village. Monsieur la fixait d'un air bienveillant.
Je ne le puis.
Ils se pressèrent moins, désappointés. Mais Justine fit un signe de croix. L'orage éclatait. La pluie tombait en rayons blancs. Les carreaux pleuraient comme des yeux. De petites gouttes jaillissaient par les fentes des croisées. Dehors, le cheval courbait la tête sous l'averse. « Soit, » dit le voyageur bien mis. Il ajouta à Justine, « Je bénis l'accident. » Et Boutiou fit rentrer la voiture sous la grange. Sa pratique ne s'en irait pas. Tous les trois regardaient l'orage. Et Boutiou lui souriait. « On s'en moque quand on n'a pas à craindre pour ses blés et ses fruits. C'est même joli. » Néanmoins, il compatissait au malheur des autres. Le monsieur parlait d'une voix veloutée. Il expliquait la foudre avec des anecdotes de chevelures lumineuses et de bracelets fondus. Il dit son nom. « Contal, plaît-il ? Contal !» Justine et Eboudiou se regardèrent. « Contal ! Un nom de prince espagnol, ça !» Le lendemain, comme il était convenu, Justine et son homme alternèrent pour montrer la fête à M. Contal. Ainsi, le service au cabaret n'en pourrait souffrir. Contal admirait volontiers. Et Boutiou se frottait les mains. On se pressait chez lui, grâce à la fête et pour voir l'étranger. « Parlez-moi d'un voyageur de ce rapport. » Il insinuait, un peu courbé, tout mielleux, « Monsieur Contal, tenez, par ici !» Des berlingots au caramel poissaient à l'ombre d'un grand parasol rouge. Des chevaux de bois estropiés tournaient, solitaires. Au milieu des cris, des farces, des rires, des joies bruyantes, un couple se balançait dans une odeur de sucre brûlé. Des campagnards, en dimanche, erraient, allègres, émerveillés, hableurs, ou bien s'éternisaient à distance des boutiques, dont ils se défiaient comme de voleurs avec des regards longs et des réflexions mesurées. Et, doucereusement, et Boutiou guidait Contal. « Tenez, par ici !» Une toile flottante se tendait sur des lunettes où, moyennant deux sous, on pouvait voir une apothéose après décès. Deux vieilles femmes marchandaient. Elles voulaient bien pour moitié prix. L'homme refusa, poliment mais nettement. Elles pensèrent « Il est mal disposé, nous reviendrons, il ne nous reconnaîtra point. » Elles s'éloignèrent de quelques pas, puis y retournèrent. L'homme s'emporta. « Se fichait-on de lui par hasard ? Il était bien libre dans son commerce et maître de fixer ses tarifs. » Et, d'un geste large, il les envoya à la balançoire. Elle s'entêtait. Il nous rappellera. Quand ce fut au tour de Justine, Ebutiou rentra au cabaret. Il vit sa femme et Contal se perdre dans la foule. Ses yeux luisaient dans sa figure couleur de bile. Il est pris, se dit-il. Et dans l'auberge qui ne désemplissait pas, sa jambe de bois frappait le carreau d'une manière sonore, sûre d'elle-même, comme une vraie jambe. Cependant, Justine, en fichu bleu, plus fraîche et plus rouge, marchait près de Contal, hardie et multipliant ses phrases. Personne ne lui en imposait. « Pas même quelqu'un de complet ?» dit Contal. « Vous êtes malicieux. » Comme un homme fort et quoique recherché dans sa tenue, il lui offrit le bras. Il aimait les choses simples et la trouvait belle. Des quinquets s'allumaient aux boutiques, les boniments montaient plus haut, des bras gesticulaient comme pour agripper. « Un coup de blanque ? Non, à quoi bon jeter son argent ? J'aime mieux me balancer, au moins ça profite. » Justine se tenait au chêne, la gorge gonflée, la tête en feu. Elle se laissait aller et s'imaginait se baigner dans du vent. Tout disloqué, avec d'énormes tensions et de gros soupirs, Contal tirait. Puis, il lui promena son mouchoir autour du cou, dans le dos, très bas, comme une éponge. Et le bout de ses doigts caressait la peau humide. Justine poussait de petits cris, bien heureuse. Un violon, une clarinette, un piston se firent entendre. On dansait dans la grange. Les musiciens dominaient, hissés sur la voiture de Contal. Il était parti. Il demanda une polka piquée. Les musiciens se consultèrent. Une polka, oui, mais piquée. C'est à peu près pareil, dit Contal. Rien n'empêchait d'essayer. Contal et Justine s'élancèrent. Elle ne savait pas. Il la portait, vigoureux et cambré, frappant du talon et tendant le bras de Justine à l'arracher. La musique se réglait sur eux dans un cercle d'extasiés et d'envieuses. Ça et là, des vieillards branlaient la tête. De leur temps, c'était encore plus beau. Au-dessus des danseurs, la corde qui servait à hisser les bottes de foin et de paille était roulée en nœuds multiples, nattes énormes. Ils s'arrêtèrent en se faisant des saluts. Justine se retira sous un arbre de la route. Contal la suivit et devint familier. Elle avait sur le front de petites frisottes blondes écollées. Il s'amusait à les dérouler, en s'y prenant délicatement. Elle se recroquevillait en boucle comme des ressorts. Il fit sur elle l'essai de ses phrases. « Vous sentez bon comme le poivre et comme le foin. » Tout près d'eux, le canal tranquille dormait dans ses brumes pâlotes et transparentes. Autour d'eux, coulait, diffuse, une musique lointaine où tombaient comme des pierres dans une vitre des cris discordants. Contal souriait. La lune échancrée écartait ses fines cornes comme une pince lumineuse. Justine frissonnait. Là-bas, à l'auberge, près du bouchon desséché, sous les lampions multicolores dont la lumière n'éclairait que le haut de la porte en laissant le bas dans les ténèbres, une sorte de croissant mobile s'agitait sur le feuillage des ceps de vigne. Il s'arrêtait, puis remuait encore. On eût dit l'ombre vacillante de la lune. « Est-elle drôle ainsi ? » dit Contal qui regardait la lune. C'est drôle, dit Justine, qui voyait l'ombre en cherchant à s'expliquer un peu effrayée comme d'une apparition. Elle s'en va, dit Contal. Je ne la vois plus, dit Justine. Vous tremblez ? J'ai froid. Moi, je me sens comme ceux qui font des vers. Quelqu'un s'approchait d'eux. Ebutiou avait la bouche souriante et le regard mauvais. Il tenait une main derrière son dos et Justine vit sauter dans l'autre une serpe de fer affilée et courbe. On se repose, dit-il. Tenez, j'ai bien cherché pour les trouver à votre goût. Ça va vous rafraîchir. » Et il tendit à chacun d'eux un beau raisin, doux comme du velours, qu'il venait de couper à la treille. Contal s'en barbouilla la face. Justine picotait silencieuse et remise de sa peur. Et Boutiou dit à Contal :
« Vous ne portez pas de main. Autant être ici qu'ailleurs, pas vrai ?»
Il avait presque un tremblement dans la voix. « Je commence à m'y faire, » dit Contal.
Et Boutiou s'éloigna.
Avaricieux assez pour ne pas rager qu'un peu de les laisser tous les deux, si près l'un de l'autre. Contal restait. « Vous m'endormez dans trop de gâteries, » disait-il à Justine, satisfaite. Et Boutiou lançait des coups d'œil faux, mais il se faisait gracieux avec effort. Sa bouche grimaçait. Il lui vanta les plaisirs de la campagne, et Contal rentrait, courbaturé d'avoir regardé pendant des heures pailleter les goujons gris dans les nasses d'osier et les bouteilles vertes. En un coin près de la cheminée, sur une ardoise encadrée de bois blanc, la note à M. Contal augmentait tous les jours. De temps en temps, Contal criait comme un enfant qu'on passe « Je veux m'en aller, je veux m'en aller !» Mais au fond, il se sentait pagnotte pour cet effort. Et d'ailleurs, Boutiou, plein de flair, trouvait toujours à temps pour le retenir des inventions subtiles et des paroles alléchantes. Cependant, toute une procession défilait au cabaret. On s'y donnait des rendez-vous pour le soir, après les travaux. Les paysans s'attablaient avec des airs mystérieux. Ils buvaient à petits coups et riaient sournoisement, sans ménager à Boutiou les clins d'yeux qui avertissent et les serments de main apitoyés. Il ne voyait donc rien. Et d'autres, commode, hein, le truc pour faire aller les affaires. Aux entrées de Contal, on chantonnait « Tiens, voilà le compère !» Et Boutiou payait d'audace. On le jalousait, il le savait bien. Qu'un bout de soleil se montre, les serpents affilent leur langue. Mettre à la porte de bons voyageurs, alors. Il affichait Contal. On les voyait, bras dessus, bras dessous, bravaient les potins, comme des amis de naissance. Cependant, d'une manière croissante, au teint de l'aubergiste montait comme un afflux une couleur de bile. Justine se taisait, en femme docile qui n'a pas à se plaindre. Le curé intervint. Il ne pouvait feindre une ignorance coupable. Il lui montra des jeunes filles qui passaient. De tels tableaux les dévergondent. Et Boutiou se fâcha.
Oh, « C'est trop! Pour qui me prend-on ? Je les tuerai plutôt tous les deux, et moi après. »
Le curé craignit un éclat et partit. Et Boutiou s'épuisait en gestes extravagants, tout le corps frémissant comme pour secouer des ondes. Des larmes lui mouillaient les yeux et la voix.
« Vous avez oublié un souper sur l'ardoise, » dit Contal.
Un matin, il annonça, « Je pars ce soir. » Il l'avait souvent dit. Et Boutiou voulut prier.
« Non, cette fois, c'est la bonne. »«
Puisque vous êtes décidé. » Et Boutiou courba la tête.
« Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. »
Justine ouvrait de grands yeux sur Contal. Des paysans s'arrêtaient sans mot dire, comme si, revenus à des sentiments moins narquois à l'approche du malheur, ils voulaient en prendre leur part, en frères.
« Vous êtes bien décidé ?» répéta Boutiou en un ton d'homme qui met au pied du mur.
« Oui, » dit Contal. Il était engraissé visiblement. Ses moustaches avaient un tour coquet. Ses joues remuaient doucement.
« Vous avez l'air agité, Boutiou.
Dame, quand les amis s'en vont !»
Boutiou serrait les lèvres. À quoi bon maintenant des frais de sourires inutiles ? Il alla fermer les deux battants de la grange. Une petite porte s'ouvrait dans l'un d'eux. Le soir vint. Justine, toujours fraîche et rouge, prenait son parti. Elle préparait le dernier dîner. Et Boutiou additionnait la note. « La règle, où est la règle ?»«
Et celle-là, » dit Contal en lui montrant sa jambe de bois. « Ah, vous êtes facétieux, » dit Boutiou d'une voix creuse. «
un mot savant que Contal lui avait appris. « Je vais atteler, » dit Contal. Et Boutiou se glissa dans la grange avant lui. Contal, en sifflotant le chant du départ, ouvrait le coffre de la voiture. Un nœud coulant lui tomba autour du cou. Il eut le temps d'étreindre la corde en ses mains, au-dessus de la boucle, le plus haut possible. Le nœud ne se serra pas. Mais il fut enlevé, les doigts crispés vers la poulie, dans le noir, tellement stupide qu'il ne cria pas. Il entendait en bas une voix sourde « Manqué, tonnerre, voilà le chien dans Aster !» Et Boutiou tirait de toutes ses forces. « Tu te lasseras, quand il faudrait me dessécher !» Au plus petit mouvement de détente, Contal s'étranglait. Le nœud lâche lui battait le menton et les épaules. « Noue donc ta cravate !» Et Boutiou donnait à la corde des secousses vives. Au bout qui se tenait à terre, le crochet de fer sautait avec des heurts métalliques, comme un reptile furieux désarticulé. Le sol résonnait sous les coups secs du pied de bois. « T'as balancé ma femme ? Chacun son tour !» Les soupirs étouffés de Contal se perdaient là-haut, dans les briques. D'ailleurs, il ménageait ses forces et tâchait de garder l'immobilité d'un mort. Et Boutiou dansait en délire, les yeux rouges. Tendons la langue, matin sans feu ni lieu, cloche sans battant. Une pièce de monnaie tomba par terre.
Je suis payé, je ne vole pas. Dieu de Dieu que je m'amuse.
Tout à coup, sa jambe de bois se prit au crochet de fer. Sans réfléchir, il se baissa pour la dépêtrer. La corde n'était plus tendue. Contal descendit d'un trait. Si brusquement qu'Eboutiou, moins lourd, monta pendu par sa jambe de bois et par une main. Soudain, ils s'arrêtèrent. Un nœud qu'on avait oublié de défaire depuis le soir des danses, trop gros pour passer dans la poulie, empêchait la corde de couler plus bas. Et, tous les deux, désemparés, suspendus, par un balancement qu'ils ne pouvaient maîtriser, incapables d'effort l'un et l'autre, gigotaient et se heurtaient comme deux grands faucheux qui s'acharnent. Sur leur tête, les tuiles mal jointes laissaient passer par leurs trous des pointes de jour qui glissaient sur les fétus de paille comme des regards curieux. Dans l'auberge, Justine arrangeait gentiment des brins de réséda dans le verre de M. Contal.
« Il s'en ira, vous verrez. Ce n'est pas de ma faute si ce qui arrive, arrive. Bah, il en viendra d'autres. »
Puis, elle appuyait sur le bord de la fenêtre, ses mains soignées, étendait la tête.
« Qu'est-ce qu'ils font donc qu'ils ne viennent pas ? Boutiou ! Boutiou !»